Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec notre motarde en or, Patricia, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. On va parler du livre de Jonathan Salomon. Jonathan qui est présent avec nous dans les studios. Bonjour. Un beau cadeau que tu nous fais, Jonathan.
Bah, avec grand plaisir, bonjour.
Donc, on va parler de ton livre, Récit d'un joueur itinérant, qui est paru donc en dernier trimestre de l'année 2015.
Juste avant Noël, un peu avant Noël.
Voilà.
Voilà, novembre.
Et donc, qui est aux éditions Hugo Doc.
Voilà.
Voilà.
Très bien. Le portrait aujourd'hui, c'est Adrien Halloween.
Bonjour tout le monde.
Oui, Adrien de La Bielle et le Motard. Alors, moi, j'avais trop envie de te présenter le jeune qui aimait les vieilles, mais bon, il paraît que ça fait ringard. Tu te présenterais comment, Adrien ?
Alors, tout d'abord, un jeune de 24 ans et qui aime les vieilles, puisque j'ai des motos de, on va dire, 67 à 60, fin 70, années 70.
Et une grande passion déjà.
Une grande passion qui a commencé vers, on va dire, 14 ans, l'âge où ça démange, on a envie de mettre le vélo de côté. Et puis l'envie d'avoir une mobylette. Et puis l'envie d'avoir une mobylette et une mère qui dit bon, bah, mon fils, j'ai pas envie que t'aies un accident.
Et puis on salue aussi notre technicien émérite, Laurent, bonjour.
Bonjour, et c'est parti. We'll be right back.
Le magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30. Aujourd'hui avec notre motarde en or, Patricia. On parle lecture avec Jonathan.
Voilà, et Patricia commence fort parce que déjà, elle déforme le nom de famille de son invité. Donc, c'est bien Jonathan Salamon. Et on va corriger sur toutes les publications qu'on a faites pour annoncer ta présence. Donc, Jonathan, donc auteur de récits d'un joueur itinérant, c'est un livre très dense, que je trouve très riche également. Merci. Et pour plus de 400 pages avec de nombreuses photographies.
Et il ne raconte que la moitié de mon voyage, en fait.
Voilà. Et donc, on pourra en parler largement pendant toute l'émission. Mm-hmm. Et malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Donc, Jonathan, ce que je te propose...
Ça commence bien.
C'est la grosse frustration, parce qu'on a un sommaire chargé. On ne l'a pas détaillé tout à l'heure, mais il est très chargé. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse en trois parties. Mm-hmm. On va parler du livre, du comment il s'est fait. La deuxième partie, quand on se retrouvera après la pause musicale, eh bien, ce sera pour parler plus de la moto. Mmh. Et ensuite, j'irai un petit peu les conclusions que tu as pu tirer de cette expérience très riche sur tous les plans, donc, comme je disais.
Super.
Donc, ton livre, il est issu d'un blog qui a eu beaucoup de succès.
Ouais. Le World Poker Trip, ça s'appelait. Mais bon, avant d'être un livre, avant d'être un blog, c'est surtout un voyage, quoi.
Voilà.
C'est un récit de voyage, c'est une sorte de journal intime dans lequel je racontais un peu tout ce qui m'était arrivé pendant les 2 ans et demi durant lesquels j'ai traversé l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale à moto.
Voilà. Et cet itinéraire, il est quand même hors du commun. Parce que tu avais déjà voyagé auparavant.
Ouais, beaucoup. Hein,
voilà,
beaucoup,
tu dis que tu as globalement 7 ans à peu près où tu avais voyagé, mais c'était pas du tout dans les mêmes conditions.
Non, en fait, j'avais beaucoup voyagé en stop, j'avais beaucoup voyagé en bus, je voyageais à pied, j'étais un baroudeur, quoi. Mais en moto, jamais. J'avais jamais conduit une moto.
Et surtout, parce que, a priori, tu ne pouvais pas savoir que tu allais rencontrer la moto, pendant ton voyage. Hein. Donc, au départ, dans l'idée que tu avais, c'était, moi, je l'ai lu comme ça, une volonté aussi de rupture des amarres.
En fait, j'étais architecte, j'avais 25 ans. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out. Donc, j'étais architecte dans le sud de la France et j'ai eu un patron qui m'a un peu mis une très, très, très grosse pression à l'époque. Et moi j'ai fait mon burn-out et en gros c'est posé la question de qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Est-ce que je continue à travailler comme architecte, j'étais architecte, ou bien est-ce que je fais enfin le grand voyage qui me fait rêver depuis que j'ai 18 ans et que j'ai commencé à voyager, à savoir le tour du monde. Et du coup je me suis rendu compte que j'avais 25 ans, que j'étais célibataire, que j'étais au chômage, donc c'était le moment ou jamais, quoi, pour partir. Et
donc,
je suis parti.
Voilà, partir pour un long voyage quand on est au chômage, il faut pouvoir le financer, son voyage.
Et j'avais la chance, entre guillemets, à l'époque, d'être passionné de poker. en fait, j'avais toujours... c'était aussi un des trucs qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'adorais voyager, mais à peu près à la même époque, j'avais commencé à jouer au poker. Et j'avais toujours été un passionné de poker. Et je me suis demandé si je pouvais pas essayer de financer mon voyage grâce au poker. Et en fait, c'est parti un peu d'une sorte de challenge personnel où je pensais même pas, en fait, pouvoir financer un voyage comme ça. Et j'ai commencé à jouer et je me suis rendu compte que ça marchait bien. Et je me suis dit, on y va, soyons fous et faisons-le, quoi.
Tu gagnais?
Avant de commencer ce voyage, j'étais juste un passionné. Donc, je m'étais acheté un téléphone de temps en temps, des chaussures, enfin, rien d'exceptionnel. Mais au moment, en fait, dans les 4 mois qui ont précédé le voyage, j'ai commencé à jouer un peu plus sérieusement, intensément, un peu de manière professionnelle, on va dire. Et là, j'ai commencé à gagner pas mal.
En gros, t'as mis de l'argent sur la table.
Ce qui est super intéressant pour les gens qui ne connaissent rien au poker ou qui en ont une image assez classique, c'est que on découvre vraiment les côtés techniques et donc effectivement aussi le travail, énormément bossé. Et tu parles de l'importance aussi actuellement d'Internet. Internet a été important pendant ton voyage, mais aussi quand tu évoques le poker.
Dans l'apprentissage.
Voilà, dans l'apprentissage. Ouais.
Moi, j'ai appris à jouer sur Internet. En fait. Bon, j'ai appris à jouer à la fois sur Internet et sur les tables réelles. C'est une sorte d'apprentissage parallèle. Sur Internet, comme on n'a pas de joueurs en face à face sur Internet, donc on est obligé d'apprendre un peu les mathématiques, les statistiques, la tactique pure, quoi. Et puis en live, ce qu'on appelle en live, c'est-à-dire sur des tables réelles, comme on affronte des vrais joueurs en chair et en os, on apprend plus le côté psychologique, le côté ce qu'on appelle les tels, c'est-à-dire le langage corporel, c'est-à-dire que dit le corps que ne dit pas la voix. Et voilà, donc il y a pas mal d'aspects. Le poker, c'est un jeu qui a plusieurs dimensions et qui sont assez intéressantes à travailler, quoi. Et qui peuvent aider un voyage aussi, d'ailleurs.
Voilà. Donc un des éléments qui me fait dire que ton livre est extrêmement riche. Bon, pour les gens qui ne sont pas passionnés de poker et qui s'abarberaient, j'irais. On peut zapper, hein, ces passages-là.
Ouais, bah oui, j'ai mis ça en bleu, donc ouais. Voilà, pour les gens que le poker saoule, ils peuvent vite passer à la
suite.
Oui,
il y a certaines parties qui sont plus ou moins accessibles, parce que parfois, c'est vrai que c'est très technique. Alors, c'est intéressant, parce que on a tout, je dirais, le glossaire, un peu les termes, ce que ça veut dire. Ouais. Donc...
Moi, j'essaie de rester vulgarisateur, quoi. J'ai vraiment... Si j'avais voulu vraiment parler comme un joueur de poker pro...
On n'aurait rien compris.
Ouais, vraiment.
Mais c'est comme vulgarisateur, c'est réussi aussi. Et donc Internet, c'est aussi très important pour les contacts. Donc ouais. tu évoques ta façon de voyager. Mm-hmm. Tu as recours au Couchsurfing.
Ouais, Couchsurfing. C'est un site Internet que j'ai commencé à utiliser quand j'ai commencé à voyager, donc il y a 10 ans. Et c'est une sorte de Facebook pour les voyageurs dans lesquels les gens s'inscrivent et ils disent par exemple, bah voilà, je vais à Lima la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent m'accueillir ou bien m'accueillir chez eux, m'héberger, ou bien tout simplement me proposer de voir la ville ou d'aller boire un verre ou des choses comme ça, quoi. Et moi, j'utilise ça depuis toujours, en fait. Ça a révolutionné ma manière de voyager puisque, en gros, je ne vais plus à l'hôtel. Pendant 2 ans et demi, j'ai dû aller à l'hôtel peut-être deux mois ou trois mois sur 2 ans et demi, et le reste du temps, j'étais chez l'habitant. Et ce qui est génial, c'est qu'un jour, on est chez un étudiant, le lendemain, on est chez un entrepreneur, le surlendemain, on est dans une famille. Enfin, moi, bon, à chaque fois, on est chez des gens très, très différents, et c'est vraiment le voyage à l'intérieur de la culture, enfin via les habitants, quoi. Et moi, je fais plus que ça, en fait. J'adore ça.
Ça t'a amené à vraiment la rencontre d'une richesse humaine.
Ah bah oui, toute la sociologie sud-américaine, voilà, je les ai tous rencontrés, pas tous, non, mais voilà, j'ai vraiment rencontré un vaste éventail de personnes, quoi.
Ce que je te propose, Jonathan, c'est qu'on fasse une petite pause musicale, mm-hmm. et on se retrouve juste après.
Oui.
Thank you. 'Cause there's a high wind blowing across the mountain. It's shaking and it's trembling through the pines. Well, you ought to take the shelter of my cabin, little girl, 'cause it's going to be raining outside. There's a dark cloud rolling in, they're covering up the sky. There's a dark cloud rolling in, they're covering up the sky. And if the stars were the windows of the angel, all backlit by the glow of heaven's light, then tonight I believe they're drawing the curtain, they're covering their eyes. 'Cause there's a high wind blowing across the mountain. It's shaking and it's trembling through the pines. Well, you ought to take the shelter of my cabin, little girl, 'cause it's going to be raining outside. Well, it's going to be raining outside. Well, it's going to be raining outside.
Le magazine de la moto et des motards, c'est sur Campus, c'est de 11h à 12h30 tous les dimanches. Voilà. C'est Jonathan, hein, très bon joueur de poker, mais au micro, un peu moins bon quand même. Oh. Non, excellent au micro. Ah, excellent, bien. Excellent. Ouais. On boit tes paroles.
Ah, bah, voilà. C'est cool.
Et on retrouve donc le récit d'un joueur itinérant. Et là, on va direct parler de la moto.
Allez.
Donc, a priori, on rappelle, hein, tu n'avais pas dans l'idée.
Moi j'étais pas du tout un motard, quoi. J'avais jamais touché une moto de ma vie avant d'arriver au Paraguay, en l'occurrence.
C'est un coup de poker.
Donc, il faut donc aussi dire que tu as débarqué à Rio.
Ouais.
Hein, tu es resté une certaine
période. À la base, je voulais faire un tour du monde. Voilà. Donc, à la base, mon plan, c'était j'ai un an, je fais un tour du monde, je le finance par le poker. Et j'arrive à Rio et bon, j'avais envie de voyager comme j'avais toujours voyagé, c'est-à-dire en bus, en autostop, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, le poker s'est vraiment très, très, très bien passé au Brésil. J'ai gagné pas mal d'argent, j'étais content, j'étais heureux. Et je suis arrivé au Paraguay et j'avais, pour dire les chiffres, j'avais 2 500 $ dans mon sac. Et le Paraguay, c'est un pays qui est un peu limite, quoi. C'est un tout petit pays qui est enclavé entre le Brésil, l'Argentine et c'était quoi le troisième, la Bolivie. Et c'est un pays dans lequel on n'a pas trop envie d'avoir beaucoup d'argent sur soi, quoi. Et du coup, j'avais envie de dépenser cet argent et je suis arrivé chez mon coach surfeur à l'époque et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des motos partout au Paraguay. Et l'idée a commencé à germer. Je lui ai demandé ça coûte combien une moto. Il m'a fait à peu près 1 000 $. Là, j'ai fait sérieux. Et en fait, d'un coup, je me suis rendu compte que c'était rigolo, quoi. Et du coup, je suis parti avec Richard, il s'appelait. On est parti au magasin de moto et puis j'ai acheté une moto.
C'était quoi?
C'était une Léopard YES 150cc.
C'est une moto chinoise.
C'est que cette moto.
C'était la moto de là-bas, quoi. C'était
même
là,
moi, ouais. Je connais pas.
C'est une chinoise inconnue, quoi.
Pour évoquer un petit peu les caractéristiques techniques de cette moto, dis le nom que tu lui as donné d'emblée.
Elle s'appelait Parkinson. Parce que dès qu'elle dépassait les 40-50 km/h, elle tremblait à plus possible, quoi. En vrai, si on parle d'un point de vue de motard un peu sérieux, c'était un très 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 mauvais choix de moto, parce que c'était vraiment pas une moto faite pour voyager, quoi. Mais bon, en même temps, comme je connaissais rien en moto, c'est pour ça que j'y suis allé un peu naïvement, ouais. Comme ça. Mais en même temps, c'était une super idée parce que elle avait plein de problèmes. Pendant les 2000 premiers kilomètres, en fait, tous les 200 kilomètres, j'avais une panne.
Perdais régulièrement quelque chose.
Je perdais un boulon, je perdais un réservoir qui commençait à fuir, je sais pas quoi. Je vais m'arriver tous les 200 kilomètres, sérieusement. Et du coup, j'avais plein de problèmes et du coup, j'étais tout le temps arrêté au milieu de nulle part et je rencontrais des gens.
Voilà, c'est...
Et j'étais hébergé. Et genre, par exemple, en Argentine, c'était à peu près à 2-3 semaines de voyage avec la moto. J'ai commencé à avoir une fuite d'essence dans mon réservoir. J'étais au milieu de rien du tout, quoi. J'avais passé le dernier village depuis une demi-heure et j'étais dans la merde, quoi. Et du coup, j'ai dû vraiment en urgence revenir sur mes pas. Je suis arrivé dans un bled perdu et j'ai rencontré un mec qui s'appelait Franco et qui en fait m'a hébergé pendant une semaine dans sa famille, etc. Et c'était génial, quoi. J'ai rencontré sa famille et en fait j'ai eu de la chance. C'était un Syrien qui vivait en Argentine. Et qui était super sympa. Et en fait, tout le début de mon voyage, toutes les galères que j'ai avec ma moto, ça a toujours été une merveilleuse opportunité pour rencontrer des locaux, quoi. Et donc, il y avait le couchsurfing, mais il y avait aussi c'est la moto qui me permettait également de rencontrer plein de monde, quoi.
Et tu as fait quand même beaucoup de kilomètres en moto.
En tout, ouais. Je sais pas exactement parce que mon compteur aussi est mort. Mais en gros, j'ai dû faire à peu près 40 000 kilomètres sur deux motos.
À évaluer,
sur deux motos. Parce que la première est morte au bout de 20 000 kilomètres.
Alors, ce qui est étonnant, effectivement, c'est que tu n'avais pas ton permis, bien sûr.
Ouais.
Que
tu roulais sans permis.
La façon de le passer est assez. En fait, il faut remplir des formulaires.
Attends, mais c'est incroyable. En fait. Donc j'achète ma moto et je sais pas la conduire. Donc parce que je sais pas la conduire. Donc c'est le vendeur qui me raccompagne chez mon hôte et il commence à me demander mais qu'est-ce que tu fous là, pourquoi tu sais pas conduire la moto que tu viens d'acheter et tout. Et voilà, je lui explique un peu mon voyage et donc il dit on va faire un permis, quoi. Et donc on est allé à la mairie et le Paraguay, donc surtout la ville où j'étais, Ciudad del Este, qui est la ville frontière, la triple frontière Paraguay, Argentine. Brésil, c'est les villes frontières, déjà c'est déjà un peu chaud et c'est un peu limite, quoi, mais une triple frontière encore plus en Amérique du Sud, on peut tout s'acheter là-bas, on peut s'acheter tout et du coup on peut acheter des papiers aussi,
en gros, quoi. On passe pas son permis, on fait un permis,
c'est ça. Je suis allé à la mairie et ce qui est incroyable c'est que c'est légal, hein. Je suis allé à la mairie, j'ai donné $15, j'ai donné ma carte de groupe sanguin. Et au cas où. Et ils m'ont délivré un permis paraguayen valable pour un an en Amérique du Sud. Voilà. Et après, j'en ai fait un deuxième au Nicaragua. Et là, j'ai dû payer un peu plus cher. Mais voilà. Et donc, du coup, j'avais mon permis. Je ne savais pas conduire. Il n'y a même pas un examen. Il ne pose même pas une question, quoi.
Mais
ils ne te demandent même pas.
Christine, c'est le pied, ça.
Mais en même temps, ça explique aussi pourquoi le Paraguay, c'est vraiment un pays hyper dangereux au niveau circulation, quoi. Mais après avoir conduit au Paraguay, après avoir appris au Paraguay, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais conduire partout, quoi. C'est vraiment une bonne école de la moto, au final, quoi. Donc voilà. Mais j'ai un apprentissage qui est purement personnel, au final, quoi. J'ai appris en roulant, quoi. Voilà.
Mais ce qu'il y a, c'est dès que tu as commencé à rouler avec cette moto, ça a été le choc.
Ah mais c'était génial, c'était je m'attendais pas à des sensations aussi puissantes, quoi. C'était, moi, je racontais ça dans le bouquin, et c'est un peu dur, en fait, d'expliquer ça. Vocalement, mais c'est des sensations qui sont, c'est la liberté, quoi. Moi, je me rappelle, j'ai acheté la moto, donc j'attendais la plaque. Elle a mis 3 semaines à arriver et je regardais carnet de voyage tout le temps, quoi. Je regardais le tché, quoi, et je me disais c'est bientôt moi. Et en fait, c'est devenu moi, quoi. C'est-à-dire que je suis sur la moto, je suis à Asunción, il est 2h du mat, je suis tout seul sur le périph qui est vide. Et en tant que voyageur, en plus, c'est un sentiment de liberté incroyable, quoi. Et ce qui est magnifique avec la moto, c'est qu'on part quand on veut, on s'arrête quand on veut, on dort où on veut. J'avais ma tente. Et du coup, voilà, quoi. J'étais heureux, quoi. J'étais sur ma moto, j'étais heureux. Et j'avais jamais connu ça, quoi. J'avais connu la liberté du voyageur, mais là, c'est vraiment une dimension encore plus grande, quoi. C'est encore plus puissant, encore plus intense.
Et au fil des pages, on voit que cette moto devient vraiment une compagne.
Ouais.
Et elle est personnifiée.
Ma moto.
Elle a son nom, mais aussi elle a son âme.
Ouais, elle a son âme et elle devient ma copine, quoi. C'est devenu ma copine. C'est-à-dire que je la tutoie, enfin, je lui parle et je parle d'elle comme. Voilà, c'est ma copine, quoi. Et quand elle est morte, dans le nord du Pérou, en plein désert, d'ailleurs. D'un coup, en fait, dans le nord du Pérou, elle a claqué. Et j'ai dû la pousser et j'avais trop peur parce qu'il était genre 4h et le soleil commençait à baisser et j'étais dans le désert, quoi. Et à chaque fois j'ai eu de la chance quand même parce que je l'ai poussé, je suis arrivé chez un paysan et il m'a aidé et il me l'a réparé pour vite fait avec des fils de fer pour que j'arrive à la ville suivante. Mais à la ville suivante, j'ai dû l'abandonner, quoi, parce qu'en gros, j'étais dans le nord du Pérou et il y avait les montagnes d'Équateur qui m'attendaient. Et je me voyais vraiment pas la conduire en Équateur.
Tu lui as tiré une balle dans le phare?
Non, non. parce que j'ai pris un couteau, j'ai dévissé le compteur kilométrique que j'ai mis dans mon sac, je l'ai gardé.
Adieu, vieux.
Les 16 298 km de Parkinson.
Adieu, vieux cheval.
Et je l'ai offerte à la fille qui m'avait hébergé dans cette ville-là, avec qui j'ai une petite histoire d'amour, c'était rigolo. Et du coup, c'était mon cadeau d'adieu.
T'as plein de trucs, hein.
Ah bah, il s'est passé plein de
poker,
trucs.
Poker, la moto, histoire d'amour. C'est vrai, il y a de quoi faire un bouquin.
Bah voilà, il y a un bouquin, ouais. Et il y aura peut-être un film, hein, je vois d'ailleurs.
Il y a un film.
On est en train de discuter avec Derek.
Et la reprise des transports en commun t'a remotivé, rapidement.
Alors du coup, j'ai lâché ma moto dans le nord du Pérou et je me suis dit, bon, je vais continuer en bus. Et après avoir fait un an et demi de moto, le bus, c'était juste impossible, quoi. J'ai tenu 2 semaines et puis 2 semaines plus tard, j'avais pas l'argent pour le faire, mais je me suis acheté ma deuxième moto qui s'appelait Vegas et qui en gros était destinée à arriver à Las Vegas, quoi.
Mais de la même manière, c'était le flash. C'est-à-dire que tu n'as pas cherché plus ce côté...
C'était un peu différent, en fait. Ouais. La première moto Parkinson, elle était un peu branlante, elle était de mauvaise qualité, etc. C'était une moto... c'était la moto du peuple, en fait. C'était la moto du peuple paraguayen. Et j'ai tout de suite flashé là-dessus. Alors qu'en Équateur, j'étais un peu plus... je commençais à bien marcher, j'avais mon blog, je commençais à avoir du succès. J'étais un peu plus vaniteux, on va dire, et je me suis acheté une belle moto.
Ah oui, là, c'est une belle moto. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est...
200, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein.
Mais d'emblée, tu l'as vu,
Je l'ai vu dans sa petite vitrine, sur son piédestal.
Et elle était belle. C'est surtout ça qui t'a déterminé.
Ah, mais moi, comme je dis, je suis pas un motard à la base. Donc, moi, mes choix, ils se font sur l'esthétique, quoi. Et voilà, des choix esthétiques. Et je l'ai trouvé belle, je l'ai acheté, quoi.
Et reparti pour la route. C'est une petite pause et on continue juste après.
Ouais. We'll be right back.
tell me your story. Let's fool around while I get over mine. Allow me to pay my respect. Now be on my way. Cause all days are numbered. No need to fill me in on the how and why. I'll see it when it's time to check into the great rebel devil in the sky. The great rebel devil in the sky. Great rebel devil in the sky.
La moto, c'est tous les dimanches, 11h, 12h30. Aujourd'hui, on est accroché, hein, vraiment, aux paroles de Jonathan, patricien. On rappelle, hein, il a écrit un gros bouquin, parce qu'on l'a sur la table, hein,
un
400
bon
pages,
un
beau pavé. Hein, ouais. Il s'appelle Récit d'un joueur itinérant.
Que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies.
Alors, joueur de poker, motard.
Architecte.
Barman.
Barman,
voilà, excellent. Ouais, excellent. Voilà.
Tout ce que tu es, écris-tu, et tous les choix importants que tu as fait depuis cette expérience ont été la conséquence de cette unique shoot
unique shoot de liberté que j'ai vécu à Asunción.
Voilà, au guidon de Parkinson.
C'est un des moments les plus forts, les plus fous du voyage. Quoi. J'avais acheté ma moto. Mais je pouvais pas la conduire et j'avais des grosses galères de plaques d'immatriculation et il fallait aller à Asunción. Enfin, je l'avais acheté à Ciudad del Este, il fallait aller à Asunción, il fallait récupérer. Bon, c'était un gros bordel. Et enfin, au bout de 3 semaines, je récupère ma plaque d'immatriculation. Donc je fais mes adieux à tout le monde et j'avais rencontré une fille à Asunción. Et j'étais triste. Et du coup, il était 2h du matin, on était dimanche soir, lundi matin du coup, à 2h du mat. Et je venais de faire mes adieux à cette fille, j'étais triste. Et en fait, le lendemain, je partais en Argentine. J'avais fait mes adieux à tout le monde. Asunción était complètement vide puisqu'il était super tôt. Et Asunción, ce qui est incroyable, c'est que c'est une ville qui est hyper congestionnée tout le temps, qui est blindée de bus, etc. C'est vraiment le chaos là-bas. Et là, j'étais sur ma moto avec mon sac sur le dos. Et il y avait personne dans les rues et il y avait un truc un peu magique à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que j'avais enfin laissé tout ce qui me pesait depuis, enfin qui pesait tout ce que j'avais, tous ceux que j'avais rencontrés au Paraguay. Et je me rendais compte que ça faisait 2 mois que j'étais parti, que j'étais plus vraiment architecte, c'était fini, et que j'avais enfin lâché mes bagages de la France, psychologiquement en tout cas, et que le poker, ça marchait bien et ça m'avait donné une sorte de liberté financière, on va dire. J'avais confiance, on va dire, en l'avenir. Et j'avais ma moto qui me permettait d'aller où je veux, quand je voulais. Et en fait, j'étais complètement libre, quoi. Et c'est pas juste des paroles, mais la liberté, je l'ai ressenti physiquement dans mon corps à ce moment-là, 2h du matin, dans la nuit d'Asunción. J'ai ressenti une sorte de puissance incroyable dans mon ventre, dans ma tête, dans tout le corps. J'en avais des frissons, quoi. J'en avais des frissons, c'était magnifique. Et en fait, une fois que j'ai connu ça, tout le reste du voyage, c'est un truc qui m'a suivi, quoi. C'est la liberté. C'est là que je me suis rendu compte que la moto et tout ce voyage-là allaient me rendre libre, quoi. Tu vois.
Et voilà. Cette liberté, on la ressent à te lire au travers des descriptions que tu fais des routes que tu suis, mm-hmm. bien que certaines réalités matérielles t'empèrent un peu.
Ah bah ouais, au début je suis comme un fou, quoi. Ouais. Justement, le lendemain, je pars d'Asunción et voilà, j'ai la musique dans les oreilles, il fait beau, je suis en short. Alors vraiment aucune protection, j'étais vraiment naïf, quoi, complètement naïf à l'époque. Et puis je suis heureux et puis à quelques kilomètres de la frontière, je me prends une bordure et je chute, quoi. Et c'est la toute première chute du voyage, quoi. Il y en a une dizaine.
Et ensuite, ton évolution de motard, hein, que tu cherches à t'équiper davantage.
Ouais,
S'il fait chaud, tu dis bon, je mets mes gants, surtout quand
les gants, ouais. En fait, j'ai appris à mes dépens, quoi, à mes blessures, à mes cicatrices, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au bout d'un moment, quand on s'éclate le genou et quand on saigne partout, je veux dire, on se rend compte qu'il faut se protéger, quoi. Là-bas, c'est assez étrange parce que, surtout, dans les pays les moins développés, en fait, Bolivie, Paraguay, etc. Il y a des mecs qui roulent sans casque, il y a des mecs qui roulent en tongs, et c'est presque cool en fait. Et c'est trop bizarre quoi. Et genre ouais, c'est cool, on roule, on se protège pas. Mais et du coup quand on roule équipé, on se fait remarquer. Mais en même temps, il faut choisir quoi. Soit on se fait tuer.
Ouais. C'est du poker.
Et en fait, voilà.
Mais c'est un peu risqué comme coup de poker.
Tu dis la récompense est proportionnelle au risque. Ouais. Et tu te réfères justement au poker. Hein. Ouais. Mais en même temps, tu l'appliques à l'aventure, tu l'appliques
à la vie en général. Quoi.
Voilà, à la vie en général. Et tu dis prenez des risques, sortez des sentiers battus, mais en même temps, prenez des risques mesurés.
Bah, selon vos, selon votre confiance, on va dire, et selon votre connaissance. C'est-à-dire que je n'encourage pas les gens à prendre des risques, hein, mais j'ai juste remarqué, en tout cas au poker et de plus en plus dans la vie, qu'on n'a pas de récompense sans risque, en fait, tout simplement. Et qu'à un moment, si on veut obtenir de la liberté, de la beauté, de l'amour, je sais pas quoi, bah, il faut oser aller là où on n'a pas l'habitude d'aller, quoi. Et au poker, ça s'appelle le risk-reward. C'est-à-dire qu'il y a une relation très directe et très mathématique entre le, l'argent investi et le risque que représente cet argent et la récompense qui peut être espérée. C'est-à-dire que plus on prend des risques, plus on se rend disponible à une grande amplitude de gains, mais aussi bien dans l'amplitude positive que négative. C'est-à-dire que on prend des risques, on va pouvoir gagner beaucoup ou perdre beaucoup. Et ça veut dire qu'il faut être, quand on prend un risque, il faut être conscient qu'on peut on va avoir une récompense proportionnelle, mais qui va être aussi bien positive que négative. Et la vie, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire qu'on prend le risque et on est conscient que, ok, on peut avoir des récompenses, c'est génial, mais on peut aussi se faire avoir aussi. Donc il faut le faire en connaissance de cause, quoi.
Et au travers de ce voyage à moto, mais aussi lors des parties de poker, tu as pris quand même beaucoup de risques. Ouais. Et tu dis, j'ai survécu.
Bah, j'ai survécu et je suis devenu plus fort, on va dire, quoi. Voilà. Voilà. Mais ouais, j'en ai pris, ouais. C'est vrai que j'étais un peu j'étais inconscient. Et en fait, c'était aussi ma naïveté, je crois, qui m'a rendu qui me faisait prendre tellement de risques, parce que en moto, bon voilà, après coup, je me dis j'étais complètement fou, quoi. Je roulais sans gants, enfin j'avais mon casque, quoi. En gros, j'avais un casque de mauvaise qualité, chinois, paraguayen, voilà. Et j'ai eu vraiment de la chance au début, mais c'est surtout au poker en fait que j'ai pris beaucoup de risques, parce que j'allais jouer dans des parties clandestine en fait, parce qu'en fait le poker est légal en Argentine, il est légal au Brésil, il est légal en Colombie par exemple, mais il est pas légal en Équateur, il est pas légal en Bolivie, dans certaines parties de la Bolivie, enfin en Bolivie en général, et puis en Amérique centrale non plus, il est pas légal. Et moi j'avais un blog à nourrir et puis j'avais aussi envie de vivre un truc intense, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je joue en poker quand même. Et je suis arrivé dans des parties, dans des tripots, ouais, dégueulasses.
Ouais, alors voilà, moi j'ai des images de film. Alors c'est, une salle enfumée,
c'est
5-6 mecs qui sont autour d'une table avec un revolver sur la...
Je l'ai eu celle-là, le flingue.
Le flingue à droite ou à gauche.
Dans le nord du Pérou, j'ai eu le flingue. Mais j'ai tout eu.
La bouteille de whisky qui est sur la table et voilà. Et
plus qu'à finir.
Et plus c'est fini. C'est ça.
Mais il y a vraiment matière à scénario, en
alors
fait.
C'est un scénario de film. Alors.
Ouais. Mais alors, juste pour raconter, je la raconte souvent, celle-là, mais c'est la plus folle, quoi. Dans le nord du Pérou, j'arrive dans un billard. Enfin, on m'a renseigné, on m'a dit là il y a du poker. J'arrive dans un billard et dans l'arrière-salle du billard, il y a des caméras qui filment l'intérieur. Donc je vois la salle avant de rentrer et c'est une salle cachée derrière le billard, quoi. Et à l'intérieur, il devait être 1h30 du matin, quoi. Donc c'était la nuit, etc. J'arrive, 5 Péruviens bourrus, vraiment les gens, heureusement je suis introduit. C'est-à-dire que j'avais déjà fait plusieurs erreurs avant et j'avais compris que l'erreur de base, c'est de pas être introduit. Il faut toujours avoir un contact direct fiable. Donc j'ai mon contact direct fiable qui m'introduit, parce que jamais j'aurais voulu rentrer tout seul sans contact dans ce truc-là. Et les mecs sont... Voilà, on est dans le nord du Pérou, en plus dans une région, on est vraiment en dehors des sentiers battus, on n'est pas dans les trucs touristiques, quoi. Et en fait, donc il y a les caméras qui filment la table, qui filment le billard et qui filment l'extérieur. À l'extérieur, il y a le parking, et dans le parking, il y a des motos. Et il est genre 3h du mat, et la partie tourne tranquillement. Voilà, j'ai gagné un peu d'argent, je suis content. Et à un moment, on voit une silhouette s'approcher des motos. Et les mecs se rendent compte tout de suite. Et ils sont vifs là-bas, ils sont vivos, on appelle ça. Ils sont vigilants. C'est le même que la dernière fois. Et apparemment, ils le reconnaissent, quoi. C'est un mec c'est un récidiviste. Et ils font, ouais, c'est le même. Et on est en pleine partie, on est en train de jouer et tout. Et d'un coup, tous les cinq, ils se lèvent, ils soulèvent le grillage, et j'entends un pfff, j'entends une détonation, quoi. Et au début, je me dis, tiens, c'est un pétard, mais en même temps, un pétard à 3h du mat', ça n'existe pas, quoi. Et ouais, et ils sortent, et moi j'ai peur, moi je reste à l'intérieur, quoi. Et au bout de 2-3 minutes, j'ose sortir quand même, et je vois les mecs revenir en sueur, tout transpirant et tout et épuisé. Et ils font, putain, on l'a raté, quoi.
Ah, donc c'est pas plus efficace qu'un antivol.
Non. Ils l'ont raté, et le mec, il a son flingue dans la main, et puis il fait, bon, on y retourne, on va jouer. Il pose son flingue sur la table, et il fait, on en était où? Et on continue à jouer. Et le mec, il fait, ouais, j'ai plus l'âge pour ces conneries. Enfin, voilà, quoi. En gros, et il commence à parler. C'était un truc de ouf, quoi. Et puis, une heure plus tard, j'ai dit, bon, messieurs, c'était très sympa. Et je vais quand même y aller, quoi.
Mais voilà. Tout ça, vous allez le retrouver dans le livre. Ouais. Parce que je vous incite vraiment à le lire. C'est très dépaysant, c'est très intéressant. Ça fait penser. Et on aurait des heures pour.
Moi, j'en parle pendant des heures, moi, s'il le faut.
Mais il va falloir. Jonathan, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une émission 8 juste
heures.
Consacrée. Voilà. On le passera pendant les vacances. Ouais. Voilà. Bonne lecture à tous. Jonathan Salamon, récit d'un joueur itinérant.
Merci.
Voilà, le magazine de la moto sur campus tous les dimanches de 11h à 12h30. On va parler machine, plutôt années 80, peut-être 80-90.
Oui, avec Michel Bideau de Youngtimers Moto. Michel Bideau, présenté classiquement comme un passionné pur jus de déconnade et d'humour à tous les étages, mais surtout un très grand amoureux de la moto, journaliste de grand talent qui nous fait le grand plaisir d'être à l'antenne avec nous aujourd'hui. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Continuez les flatteries, j'aime bien.
Ah, c'est bon, c'est bon.
Il aime bien les
flatteries. Mais, non, mais c'est, en plus, c'est sincère. Depuis que nous avons fait le grand plaisir de participer à l'émission pour présenter Youngtimers Moto, je dois dire que le rendez-vous est toujours aussi réjouissant. Je vais continuer. Hein. Moi, je dirais que c'est vraiment un régal d'intelligence et de culture. Et donc, j'incite tout le monde à découvrir Youngtimers pour simplement 3,90€. C'est un bimensuel.
Bimestriel, ouais. Tous les deux mois.
D'accord. C'est un hors-série qui est très bien fait, donc qui est consacré en âge.
De 1970 à 1990. Oui, on a une belle amplitude, là, on a une vingtaine d'années. Avec des motos forcément mythiques, je pense à la 750 Honda, à la 750 Averda ou des choses comme ça. Enfin, c'est, en tout, il y a 85 motos qui sont traitées.
Alors, écoute, on va demander l'avis donc d'un motard présent dans le studio et qui vient de participer à une épreuve de l'Enduropal. Alors, Adrien, donne-nous ton avis sur ce que ça donne par rapport à cette fameuse moto que tu as pilotée, si tu peux préciser.
Alors tout d'abord, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Adrien, qui est à préciser, hein, tu es
c'est
donc
un petit jeune, hein,
la
c'est un petit
Bielle
jeune,
et le motard.
Hein,
un jeune de 24 ans, passionné de moto ancienne.
Par rapport à toi, Michel, je pense que c'est plus même...
Non mais attends, moi je continue dans la flatterie, je voudrais bien qu'on me perturbe pas là, ça va pas aller. Non. Michel, toujours très jeune, n'est-ce pas?
Oui, absolument, j'ai jamais été aussi beau.
Ah oui, bah ça,
toujours aussi mince et lancé.
Voilà.
Ah, complètement. Ah, d'accord. J'ai pas pris un gramme.
Comme le bon vin, voilà, ça vient bien.
Donc, si tu veux nous décrire un petit peu la présentation hein, de chaque fiche moto. Parce que ça se présente, on peut dire, comme une fiche moto qui prend plein de pages, mais c'est vraiment ça.
Oui, bah, on essaye un petit peu de traiter la moto. C'est un mini essai à chaque fois avec une estimation de cote. Les points forts, les points faibles, enfin bon, on essaie d'être à peu près complet, hein, bien sûr, pour éventuellement guider quelqu'un qui pourrait souhaiter acheter
tout à fait
toutes ces années-là.
Avec le guide d'achat, effectivement, les cinq raisons qui motivent, les cinq raisons qui peuvent retenir, les caractéristiques techniques, c'est vraiment très très bien fait.
Oui, il y a toutes les caractéristiques techniques, pardon, sur chaque moto. On essaie de trouver des photos qui sont les nôtres hein, pour la plupart, donc pas de la mise en scène, quoi, vraiment du pur jus, je sais pas. Alors, je suis assez fier de ce hors-série, oui, je suis content, hein, honnêtement.
Je trouve que c'est totalement légitime. Donc, Adrien, tu peux nous donner tes réactions par rapport à la lecture que tu peux faire?
Oui, alors comme Patricia le disait, j'ai participé à la course vintage à l'enduro et mon choix s'était arrêté sur la DTMX que vous avez illustré sur une page de votre magazine. Et je le trouvais très complet, notamment ce que j'ai bien aimé c'était les bonnes adresses parce que ça on le retrouve pas forcément partout dans les descriptifs. C'est très bien et surtout je voyais vous arrêtiez pas forcément aux adresses commerciales, on va dire. Je voyais par exemple sur la RS125, vous aviez mis le forum, ce qui est très bien parce que des forums, on peut en avoir en tout genre et référencer les forums de référence, c'est vraiment une bonne chose, je trouve.
C'est vrai qu'ils sont. Ce forum est sympa.
Très très bien. En tous les cas. Ouais.
Merci beaucoup, c'est moi. Merci de m'avoir invité. Je vous souhaite une bonne journée à tous.
Ouais. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Now I'm the kind of girl who has too much to say. I
try to keep it, but always go astray. I swear I try my best, but I can't stop myself. It's time to give so bad, wished I was someone else. Until one day I found the blue.
Voilà, Patricia, nous allons parler encore moto vintage, décidément, aujourd'hui, une émission consacrée aux petites vieilles, Patricia.
Bon, merci, je vais trop aviser. Non, et j'ai qu'un 750 machin, comme tu sais,
oui.
Qui a un peu d'âge.
Oui, 750
c'est
rouge,
ça que tu faisais
et
allusion,
super
sûrement.
Sport. C'est ça, oui.
Et donc, oui, bah là, c'est génial parce que Adrien est dans les studios et on va pouvoir s'installer tranquillement et papoter passion moto. Donc, comme on disait tout à l'heure, on t'a présenté comme un jeune qui aimait les vieilles. Ça te vient de où, Adrien ?
Ça vient de, comme je le disais, à l'époque où ça commençait à démanger, à vouloir une mobilette, ma mère n'a pas forcément voulu, de peur que je me blesse.
Et t'avais le poids de l'hérédité aussi ou pas?
Oui.
Pourquoi tu le caches là? Tout est sur ta mère, mais ton père, je pense qu'il doit être aussi responsable de certaines choses là.
Bah, c'est lui qui m'a transmis l'envie et du coup l'alternative à ça, ça a été d'avoir un Solex au début. Donc un Solex c'était pas commun, mais moi je m'en satisfaisais vraiment et ça m'a permis de découvrir la mécanique, les anciennes machines, le vieux de temps, etc. Et tout est parti de là.
Et là, c'est la passion complète avec la mécanique aussi. Hein.
Tu confirmes qu'un, c'est vrai que c'est un 49-9. Hein,
49-9.
Parce qu'on a Lionel qui nous avait. Qu'on a appelé en début d'émission. Ouais. Et il va y avoir des Solex d'exposés à l'OMRI donc dimanche prochain.
Ouais.
Et Lionel ne savait pas si c'était un 49-9 ou moins que 49-9.
Si, c'en est
mais
un.
Mais c'est toujours. C'est une mobilette.
Oui, voilà. C'est une mobilette bridée, on va dire.
Mais c'est vrai.
Mais donc voilà, et après s'en est suivi l'envie d'un plus, et j'ai passé une formation pour rouler en 125, et du coup j'ai enchaîné KE 125 Kawa, et là actuellement RDX 125 Yamaha.
Et donc, un réel amour pour les deux temps.
Ouais, et en fait, et voilà, une épave de GT 125 qui attend d'être mis sur route et exclusivement dans le deux temps, étant donné que familièrement, je ne jure que par ça. Donc,
Et tu as roulé aussi sur une mâche en attendant.
Ouais, alors ça, ça a été pour lancer en fait la bielle et le moteur que je vais vous présenter après. Et pour pouvoir quand même me déplacer aux événements avec un truc fiable en attendant de remettre en route ma RDX, j'ai craqué pour ce petit néo-rétro Frenchie, on va dire, et qui m'a amené quand même sur les balades, etc. Et qui est venu entacher mon tableau des deux temps, on va dire.
Alors, l'idée de la bielle et le motard, comment ça t'est venu? C'est un concentré de passion, la mécanique, et puis...
Ouais, voilà, alors... Alors quand on est jeune, qu'on roule avec des vieilles machines, etc., on n'est pas forcément, on n'en trouve pas partout. Du coup, on se retrouve un peu seul, on trouve des copains, on roule, et puis on se rend compte qu'en fait, même en montant de cylindrée, les mecs qui roulent en ancienne, bah, ils se retrouvent pas forcément dans les motoclubs normaux, on va dire. Et du coup, le but, c'est de rassembler tous ces mecs qui veulent partager cette passion de l'ancienne dans le coin. Et puis échanger, rouler ensemble, faire des activités. Et puis,
sur ton blog, tu dis que les motards de tout âge.
Voilà,
de tout âge. Toute cylindrée.
Et de toute cylindrée.
Parce que bon, je serais un peu mal placé pour être sectaire à ce niveau-là. Et puis de tout âge, étant donné que je représente la jeunesse. Et puis la passion m'a été transmise par des personnes plus âgées. Donc,
alors tu mets que du Pas-de-Calais seulement. Hein,
alors Pas-de-Calais, c'est... C'est pour dire du Pas-de-Calais,
pour localiser.
Ouais, c'est pour localiser. Alors après, ouais. S'il y a des courageux qui viennent de plus loin,
non, mais s'il y a des motards du Nord, il n'y a pas de problème. 59.
Ah non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune rivalité.
Et les motos, justement, on parlera tout à l'heure d'un motard qui venait du 59, ouais. La personne d'Alexandre.
De Belgique même.
Ah oui. Et donc, mais les motos, c'est d'avant 90.
Oui, voilà, d'avant 90, ou alors on peut dire de caractère, et là on entend. Par exemple des cafés racers sur des bases de moderne, etc. On veut garder l'esprit, mais les néo-rétro et les rétro sont les bienvenus.
On enchaîne juste après la pause musicale sur la bielle et le motard. Tell me where you wanna go.
Voilà, toujours avec Adrien de la Bielle et le Motard, Patricia.
Oui, la Bielle et le Motard, cette communauté qui ne fait pas de ségrégation entre les âges et entre les sexes non plus, un impératif, que les machines soient d'avant 90.
Oui, voilà, c'est notre préférence. Alors, on n'est pas sectaire non plus, comme je le disais, si on a une moto, on va dire néo-rétro, comme ça se fait actuellement, on est le bienvenu dans tous les cas, même avec une moto moderne et de la bonne humeur et l'esprit qu'on partage, ça nous va également, quoi. Mais on souhaite avoir notre identité et pas, avoir un truc généraliste non plus, quoi.
En fait, c'est une communauté, donc vous n'avez pas un statut associatif.
Pas encore, non. Voilà. Non. J'ai lancé la Bielle et le Motard en août dernier, et là, le but, c'est de voir comment ça prend, etc.
Apparemment, ça prend bien, parce que déjà au premier rendez-vous, il y avait une trentaine de machines, c'est ça ?
Ouais, ça a bien pris. La deuxième fois, encore mieux. Ensuite, s'en est suivi la trêve hivernale, qui s'arrête là au mois d'avril. Et les premiers rassemblements mensuels qu'on organise chaque premier dimanche de chaque mois, sous le nom de Sunday Retro Ride, vont reprendre le 3 avril chez Racer Factory Motorcycle à Dèvres.
Parce que, dis donc, ça a bien communiqué, parce qu'entre août et cette première rencontre qui était au 4 octobre, il y a eu cette mobilisation dans la région.
Oui, bah alors la volonté de la Bielle et le Motard, c'est de rassembler les particuliers qui roulent en ancienne, mais aussi de mettre en avant le savoir-faire local. Et donc c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de deux professionnels motards du Boulonnais qui partagent la même vision des choses.
Parce qu'il faut localiser, hein. On va dire que vous êtes... C'est
à Dèvres, donc c'est en campagne boulonnaise. Et donc chacun ayant ses propres réseaux, ça fait que... Ben, on peut appeler ça pour une première une réussite, et on espère que par la suite ça va... Ça va marcher tout autant et que ça va se pérenniser dans le temps.
Et donc, vous avez eu des bons relais aussi sur des sites qui ne sont pas forcément connus, mais qui gagnent énormément à l'être, hein, comme La Rouille au Ventre à Alexandre, qui vous a fait un très très bel article qui restitue bien, l'ambiance, et avec des belles photos où on voit des super machines, parce qu'il y a de très très belles machines
qui
sont présentes.
Oui, c'est Alexandre de La Rouille au Ventre qui est venu couvrir les deux premiers événements. Et donc, sur son blog, donc La Rouille au Ventre, vous allez pouvoir retrouver les résumés des événements, mais également les galeries photos associées. Et c'est vraiment, vous le disiez, Patricia, un régal, que ce soit au niveau de la lecture ou au niveau visuel, parce qu'il a un talent dans la plume et au niveau de son appareil photo, parce que c'est...
Et un amoureux aussi des machines.
Également. Mais vous le verrez, parce qu'il fait part aussi de ses périples, de ses road trips personnels. Et c'est
un amateur de longs trips.
Ouais. Lui, sa machine, son objectif, et il va vous faire voyager parfaitement.
Mais là, théoriquement, on devrait avoir le bonheur de l'accueillir à l'antenne dans les mois à venir, trouver une date.
Je doute pas qu'il viendra ici avec plaisir.
Et que ça sera passionnant.
Oui.
Et donc, ce premier rendez-vous, donc, c'était à Dèvres, chez effectivement un des professionnels.
Alors il y a deux professionnels. Il y a Racer Factory Motorcycle, donc géré par Vincent, et l'atelier mécanique du deux roues, géré par Geoffrey. Donc c'est deux professionnels qui sont sur, on va dire, le même palier, face à face. Et il y en a un qui est exclusivement mécanique, donc là l'atelier mécanique du deux roues, et l'autre qui donc Racer Factory Motorcycle, qui lui est plutôt typé machine ancienne, préparation.
Voilà, on reviendra un petit peu justement sur l'apport ces deux professionnels pour la région, parce qu'ils gagnent énormément à être reconnus. Ils sont aussi reconnus. Donc, l'atelier mécanique du deux roues a obtenu le coup de cœur du jury de la première édition du concours de la création d'entreprise dans le Nord-Pas-de-Calais.
C'est
une belle récompense.
C'est ce qui est tombé cette semaine comme nouvelle. Donc, c'est. c'est une belle récompense pour eux, ils s'en donnent les moyens et on espère que ça va durer dans le temps pour eux, quoi. Mais tout comme Racer Factory qui mérite vraiment à être connu et qui a fait déjà sa place dans le milieu.
Bah écoute, alors déjà une première date à retenir, le prochain Sunday Retro Ride, oui, hein, de début avril.
Et le 3 avril.
Voilà, et bon, on se prend une petite pause musicale, Laurent, puis on continue. Effectivement, tu nous donnes toutes les infos possibles sur Racer Factory et l'atelier du Doro. Merci.
Entendu, à tout de suite.
Voilà, on continue avec Adrien, donc la Bielle et le Motard, hein, les rendez-vous, parce que ça va reprendre là, au mois d'avril. Hein,
oui, le 3
avril. Il y a
une
trêve hivernale, et puis là, le beau temps arrive, c'est bientôt le printemps, ouais. On a besoin de rouler, on a extrêmement envie de bouger un peu, hein, qu'il fasse un peu meilleur quand même.
Oui,
ouais, et puis Dèvres, bah, c'est quand même facilement accessible de chez nous, là.
Ah oui, oui, c'est à un petit quart d'heure de Boulogne, par des routes très sympathiques. Bon, non, c'est très accessible.
Et après, c'est parti pour... Alors, comment ça se passe, ce rassemblement? Donc, il y a l'accueil, ce Sunday Retro Ride, il y a l'accueil qui se fait toujours chez Racer Factory?
Ah non, alors, ça a commencé chez Racer Factory, et ils alternent, en fait, avec l'atelier mécanique de Deroux. Un mois, c'est chez l'un, l'autre mois, c'est chez l'autre.
Et il y a toujours le même accueil avec le café, le petit-déj?
Jusqu'à maintenant, oui, ça devient un rituel, c'est le petit-déj offert, le café. Et puis ensuite, s'ensuit une balade.
Donc dans des très beaux lieux, comme la première, c'était la vallée de la Course.
Ouais, la première, c'était la vallée de la Course. Et la deuxième, ça a été dans la campagne d'Evroise, on va dire, à travers des petits villages, des champs, des petites routes bien sympathiques.
Donc on peut donner ton contact si jamais des personnes, justement, étaient curieux de venir vous rejoindre.
Oui, alors on a une adresse mail spécifique, c'est contact@labielleetlemotard.fr. Et ensuite, vous allez retrouver labielleetlemotard.fr sur Google, labielleetlemotard, la page Facebook. Vous aurez pas de problème à nous retrouver.
Alors, outre l'infrastructure qui est à la disposition de la Bielle et le Motard pour ces rassemblements, Racer Factory, pour le faire connaître aux auditeurs.
Alors, comme tu le disais juste avant, c'est avec lui qu'on co-organise les rencontres mensuelles. Et du coup, notre volonté à nous deux, c'est de développer les motos anciennes dans ce périmètre-là, dans le Boulonnais, on va dire, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais il y a déjà d'autres acteurs, comme vous les présentez ici. Et donc, le but, c'est de... Depuis un an, en fait, Racer Factory développe une activité de restauration de motos anciennes. Il faut savoir qu'avant, c'était un atelier de customisation. Et petit à petit, il se penche,
il évolue
vers la restauration de motos anciennes.
Avec des super machines, parce que dans l'article d'Alexandre, il était complètement baba devant une Suzuki, modèle.
Là, vous allez trouver, notamment sur la rouille au ventre, une multitude de photos qui mettent en avant cet atelier. Et depuis peu, du coup, avec ce projet d'Enduropal Vintage qui nous a animés, lui et moi, un projet de développer le MX Vintage, parce qu'on se rend compte qu'il y a un engouement pour le vintage, mais aussi pour le MX Vintage, donc avec une belle course qui se déroule tous les ans sur notre côte, on va dire. Donc autant en profiter.
Donc là, la moto, tu as la préparation, tu t'es décidé, alors, je vais être clair, tu t'es décidé pour faire les courses d'enduro sable. Et la première, c'était l'enduropal.
Ouais, alors là, je pense que cette année, on va faire que celle-là.
Ah, t'es fier, hein? On voit sur ton
Facebook,
ouais, là.
Si, c'est notre...
Tu poses fièrement sur... juste derrière la moto, hein.
Ouais, et Racer Factory est super fier du dossard numéro 178.
Hein?
ouais, c'est notre fierté. On s'y est pris, à la dernière minute. C'était un petit pari fou, un gros challenge. Et on a mis les roues dans le sable le mercredi, 3 jours avant la course, enfin 2 jours avant la course. C'était
sans entraînement.
Sans entraînement.
Tu n'avais jamais roulé dans le sable.
Ah non. Et c'est vraiment quelque chose.
Bah non, moi je comprends pourquoi tu finis 172e.
52e.
Ah, c'est 52e ?
152e.
152e.
Mais ma place,
j'y
étais pas.
J'y tiens. Bon, mais
sans entraînement,
Normal. Et puis avec une DTMX, rappelons-le. Oui. Donc, ça nous a animés et ça en fait notre fierté à l'heure d'aujourd'hui et vivement l'an prochain.
Voilà, donc on va faire un petit retour encore rapidement après sur justement la préparation de cette machine et sur la course en elle-même.
Avec plaisir.
Voilà, toujours avec Adrien de la Bielle et le Motard. On va revenir sur cette fameuse 175 DTMX qui a participé donc à l'Enduro Vintage il y a à peine un mois et demi, là. Bah, un mois même. Hein.
Ouais,
voilà, donc 152e, Adrien.
Mais surtout une machine.
Au final, sans entraînement,
ouais,
sans avoir jamais roulé dans le sable.
Avec une machine qui a démarré le lundi
qui a démarré,
de la même semaine.
Et qui n'avait pas démarré depuis au moins 10 ans.
Bah, je pense. Donc ça a été un travail en collaboration avec Racer Factory à Dèvres. Et on a travaillé sur la machine de fin novembre à l'échéance. Donc c'était fin janvier. Et ça s'est très bien passé, sans entraînement.
Et alors c'est dur ?
C'est très dur, très dur. Il y avait des personnes de mon entourage qui m'ont dit le sable c'est vraiment dur. En 175, t'es un malade parce que ça va être vraiment dur. Et je confirme, mais c'était un plaisir du début à la fin.
Ça doit manquer un peu de watts, un peu, non, la 175.
Ça manque un peu. Alors,
pour grimper les dunes, là, qui sont artificielles, hein, qui ont été construites par l'organisation.
Faut pas tomber avant la butte, parce que sinon, on la monte à pied. Mais, mais non, c'est ouais. Déjà la volonté de mettre un kit 175, c'est pour pallier un peu à ce manque de puissance. Et puis, au-delà de ça, c'était même pas pour faire une performance, c'était pour... pour faire la course vintage.
De toute façon, cette course, c'est même pas une course vintage. Je vois pas pourquoi on prend le nom de course. Hein.
Oui, c'est
simplement
une parade, on va dire.
Une démonstration. Il devrait pas y avoir de classement d'ailleurs à cette démonstration.
Personnellement, c'est
pour montrer. Remontrer.
Personnellement,
quoi, personnellement, quoi.
Bah, d'une année sur l'autre, on va avoir envie de faire un petit peu mieux quand même. On va dire.
Mais c'est normal, mais il y a pas de classement. Il devrait pas y avoir de classement.
Non,
mais qu'on fasse. Qu'on veuille faire mieux, forcément. Ouais. Mais on n'est pas toujours obligé d'avoir un classement pour pouvoir faire mieux. On peut très bien vouloir faire mieux sans classement.
Puis déjà, rouler avec une ancienne, c'est déjà une belle victoire quand
c'est
on termine les deux manches.
C'est ça la victoire. C'est de rouler avec l'ancienne et de participer et de finir la course.
Ouais.
Voilà. Démonstration, puis c'est tout. C'est déjà la belle victoire.
C'est bien. Et puis honorer un modèle mythique qui a marqué sa génération comme ça, c'est vraiment top.
Donc le contrat a été bouclé, il ne faut pas tenir compte de la place.
On dira ça. Et puis on se projette déjà sur l'an prochain avec Racer Factory qui me sponsorise une nouvelle fois. Et puis, la volonté d'inscrire sous son équipe Racer Factory Racing Team plusieurs machines du même esprit, anciennes, pour honorer cette machine à l'occasion de cette très grande course qui marque son temps encore maintenant, quoi. Plus de 40 ans, ça, faut que ça dure, hein,
Donc on va inviter nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil sur série du Youngtimers, hein, pour bien situer la machine. Bah écoute Adrien, en tous les cas, on ne peut que souhaiter que la collaboration avec Racer Factory soit aussi positive et dans le temps,
ouais.
Et puis que la Bielle et le Motard va connaître de très beaux jours et un grand succès auprès des amateurs de motos anciennes.
Mais je le souhaite et je vous invite à venir le 3 avril chez Racer Factory à Dèvres pour cette reprise pour la saison 2016. Et puis sur nos différents supports internet via la Bielle et le Motard, suivre l'actualité, nos projets et vivre notre passion avec nous comme on l'entend.
Une belle communauté pleine de dynamisme. On y va, on se retrouve dans quelques minutes, pour un petit billet d'humeur.
Respire, Patricia, respire.
Let my shackles go.
Alors Patricia, pour terminer cette émission, parce qu'il nous reste 3 minutes, tu voudrais nous parler d'un comment dire, c'est pas un article,
c'est dans Café Rasseur de mars-avril, le nouveau café.
Il y a 4 pages ou 6 pages sur le Nord.
Voilà, ils ont fait un road trip dans le Nord. Donc bon, si vous voulez, pour le plaisir, ça peut vous amener à vous déplacer aussi pour revenir un peu sur les pas de l'équipe de Café Rasseur. Alors, photo à l'appui, écoutez, franchement, ça donne pas l'impression, en tous les cas, d'une région où on a envie d'aller se balader, hein, parce que c'est encore avec les traces, je dirais, c'est le nord des ch'tis, c'est le nord avec le noir du charbon. Hein, bon, bref, ils sont venus par un temps de pluie, alors je ne sais pas s'ils sortent souvent ou s'ils n'ont pas vraiment. Ils viennent pas du midi, je ne pense pas, mais l'humidité, donc ça a occasionné. Un tête à queue, peut-être pas, mais en tous les cas, un site qui tient pas la route, une gamelle pour un des motards.
Patricia, donc, regarde, la première photo,
c'était gris, je dois le reconnaître. C'est pleine page, ça donne motos, pas envie de faire de se balader.
Trois motos devant une palissade en briques.
Mais après, ça va.
Une vieille palissade en briques.
Alors, ils ont vu des professionnels dans le nord.
On voit les briques qui sont vieilles.
Et des petites routes. Hein. Nous, on n'a pas de grands axes là.
Après, tu retournes la page.
Et pleine page, l'humidité. L'humidité sur eux, oui,
casque,
effectivement.
Et on voit que pleine page.
On ne le voit pas carrément déprimé, le motard, mais c'est pas loin. Le pilote, je crois que. Ah, mais après, on a la partie accueil du Nord, hein, et gastronomie, parce que le poch avec la triple secret des moines, c'est super bon. Donc, ils sont passés par l'atelier précision à Seclin. Ils sont aussi allés chez les gens de Motors et puis papoter un peu avec Jérôme de À Pneus dans la Tombe. Ils ont fait aussi un passage chez Bruno de Motorsport 62, grand spécialiste national, on va dire mondial, de la Ducati. Et puis apparemment, ils ont beaucoup tourné parce que nous serions le pays des ronds-points. Je pense qu'ils n'en ont jamais vu autant. Alors, la tendance que, paraît-il, pour les mauvaises langues, j'ai à tourner en rond, hein, bien souvent dans ma vie, devrait peut-être venir de là parce qu'apparemment, il y a de quoi faire. Dans le Nord, on tourne beaucoup en rond. Bon, ils sont passés aussi par la Cloute. Ils se sont aventurés en Belgique et ils se sont arrêtés à la Glanerie. Hein. Donc voilà, vous suivrez tout ça, l'œuvre d'Éric Dupont devant laquelle ils se sont recueillis. Non, c'est sympa, ça donne envie de retourner à la Cloute.
Patricia, merci.
Mais ils n'ont pas parlé de
toutes ces infos.
Rasseur Factory.
Ils ont qu'à l'acheter,
Gentleman Factory. Zut alors.
Est une pénalité de 8 minutes. Donc on verra pour la prochaine émission. Oui. Merci Patricia, merci Adrien de venir aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci, il fait bien froid, je sais, mais bon, ça va. le beau temps va arriver.
On est habitué.
Merci Christine pour toutes ces infos.
Oui.
Mais alors Laurent, allez. Hein.
Merci à tous.
Et d'être précieuse au téléphone, Christine.
Allez, au revoir.
Au revoir, bon dimanche à tous, à bientôt.